Une émission soutenue financièrement par Jean Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb. Allez, bonsoir à tous. E-Teachers numéro 98. En décembre, nous sommes. C'est le début de l'hiver, hein, Seb.
Non, du tout, ça ne s'entend pas.
Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive?
Ouais, un petit rhume qui passait par là et qui s'est dit « Oh tiens, un podcast, et si je m'invitais dans le podcast ?» Mais bien sûr, rentre donc et installe-toi bien profondément dans mes sinus.
Bon, voilà. Je vous rassure, c'est bien Seb qui parle, hein, je vous assure, ceux qui n'ont pas l'image. C'est bien Seb qui parle avec cette drôle de voix, mais il est enrhumé. Ben, c'est le mois de décembre, qu'est-ce que tu veux, hein.
Ouais, c'est bien ça.
Et est-ce que la fraîcheur est arrivée sur Nice aussi déjà?
Ouais, la fraîcheur est là, la fraîcheur est là.
Bon, ça caille en ce moment, je te dis.
Ah ben, j'imagine la dernière émission, il neigeait devant chez toi, donc là...
Ouais, c'est vrai. Bon, on n'a plus de neige, on a du froid, voilà.
Ouais.
Mais bon. Bon, on n'est pas venu ici pour parler météo quand même, hein?
Non, ni maladie, alors allons-y.
Allez, un sommaire... petit retour d'abord. Si, pardon. Pas un petit retour de l'émission 98. On a eu un petit retour d'un, alors, d'avance, qui me pardonne pour la prononciation de son nom de famille, mais c'est Christophe Smierzalchalski. Voilà. Qui nous fait un petit retour sur notre Twitter, eTeachersFR. Qui nous fait un repost, en tout cas assez sympa pour lui, de sa part. En tout cas, une émission bimensuelle diffusée en podcast audio et vidéo qui parle éducation numérique, innovation et expérimentation. Et il nous marque un podcast d'Anne Martinique. Alors, bon, ok. Peut-être que ça a été, en tout cas, reposté par la dame de la Martinique. J'en suis, en tout cas, ravi. Merci à lui, en tout cas, pour ce petit post très sympathique.
Tout à fait. Même si le bimensuel a un peu de plomb dans l'aile en ce moment, mais on fait comme on peut.
Ouais, c'est vrai, on est plus dans les 3 semaines en ce moment, je t'avoue, hein, si voilà. Regardez, ouais, c'est vrai. En tout cas, on essaiera d'en faire un 99, peut-être avant les vacances.
Oui, on verra. Oh.
Ouais, tout à fait. Allez, un petit sommaire rapide, il y a pas mal d'actu, en tout cas, on va parler numérique, classe inversée, robotique, dans cette partie actu. On va proposer en tout cas une série d'outils aujourd'hui. On va pas vraiment rentrer dans un outil en particulier, vous allez voir. Je pense que on va se compléter en tout cas entre Seb et moi.
C'est beau.
Entre du libre et du non libre, par exemple. Un petit truc et astuce de ma part. Je suis très dans le libre aujourd'hui, vous allez voir.
En plus sur un nouveau logiciel favori, mais bravo.
Ouais. Et c'est vrai. Et dans 6, dans innovation expérimentation, j'ai trouvé un petit article en tout cas qui fait un petit peu un constat du numérique à l'école. On va un petit peu parler de ça. Et on finira bien sûr par ce que l'on fait en ce moment. Et on finira pour parler d'autres choses, comme d'habitude.
Ouais. Un petit programme bien sympathique.
On est deux, peut-être que Guillaume nous rejoindra. Guillaume est un peu dans les starting blocks de l'édition en ce moment. Voilà, j'en dis pas
plus. Petit lutin caché derrière le micro, il arrivera.
Voilà. On y va ?
Allons-y, c'est toi qui prends la main.
Allez, ouais, j'ai deux actus, on essaiera d'inverser chacun son tour. Ça marche ?
Oui, ça va.
Comme chaque année, on va dire, la classe inversée.com nous a en tout cas contacté pour être partenaire de la semaine du CLIS. On avait été, tu te rappelles, partenaire du CLIC, hein, cette manifestation sur la classe inversée. Là, elle nous a contacté dernièrement pour nous parler pour être encore partenaire. Et nous, on suit, on aime, en tout cas, on aime bien en tout cas le projet. La CLIS, qu'est-ce que c'est? C'est une semaine entière qui va se dérouler du 27 janvier au 2 février 2020. C'est une semaine partout en France où le principe, c'est un peu la classe ouverte. où dit bien que il s'agit d'un mouvement de terrain proposé par des enseignants qui sont à cœur de partager leurs pratiques. Donc, alors, vas-y.
C'est une classe ouverte sur la classe inversée.
C'est ça, tout à fait. Wow. Donc, c'est vrai que la classe inversée, on voit toujours la même chose, mais la classe inversée est quand même beaucoup plus ouverte maintenant. Hein. Il y a beaucoup plus de...
C'est devenu plus
il y a bien, des classes inversées, voilà.
Voilà, oui.
Voilà. Donc, le but, c'est d'ouvrir des classes, en tout cas. Il y a une carte, en tout cas, interactive, où vous allez retrouver sur le site de la classeinversée.com, rubrique CLIS 2020. Vous allez retrouver une petite carte, en tout cas, où vous allez retrouver toutes les événements qui vont se passer dans ce CLIS. Vous en avez un peu partout en France, où des enseignants du premier degré, du collège, du lycée, ouvrent leurs classes pour justement voir des exemples en tout cas concrets de ce qu'ils font en classe, avoir des retours d'expérience. Il y en a certains qui proposent des ateliers en co-construction, en tout cas pour partager, échanger de ses pratiques, ou toute autre action en tout cas qui permettrait le dialogue entre pairs, c'est le but, hein. Il y a plein de choses, il y a eu des propositions de marché des connaissances, des journées de séminaires, des retours d'expérience, des événements informels, des webinaires, des mini-conférences, donc beaucoup de choses riches en tout cas dans cette semaine du 27 janvier au 2 février. Vous allez en tout cas sur le site, on vous explique comment contribuer. Soit vous pouvez proposer quelque chose, hein, il n'y a pas de problème. Hein, vous pouvez aussi proposer d'ouvrir vos classes ou de faire un retour d'expérience et aussi d'aller dans les classes, pourquoi pas. Pratiquement, en tout cas, toutes les académies ont un coordinateur CLIS près de chez vous. S'il n'y en a pas, ben, c'est une faute en tout cas des académies, puisque la mienne, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein.
Ouh.
Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, peut-être que je me propose, peut-être, mais bon. C'est un appel du pied, t'as vu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller sur donc laclasseinversée.com et CLIS 2020, et on en parlera en tout cas régulièrement jusqu'à cette date.
D'accord.
Voilà.
Oui, bah écoute, petite présentation sympathique. Merci à toi.
Seb.
Je prends la main pour un merveilleux article que j'ai trouvé sur mon Flipboard. Là. Le titre m'a titillé parce que le titre était bien. C'était Genève enterre le numérique à l'école. Il manquait que le tintin derrière pour provoquer un petit état de stress, un truc là. Voilà, bon, je veux pas tout de suite dévoiler la fin de l'histoire, mais c'est un bon titre, bien putaclic, comme on n'en fait plus. Donc, du coup, je me suis penché sur l'article qui nous vient du service d'information Le Temps, qui est un service suisse d'information sur le net. Et je me suis amusé avec mon petit logiciel là, que j'ai débusqué tout récemment, qui s'appelle Liner, à surligner les passages. Et l'article qui faisait plusieurs pages, bon, c'est résumé à pas grand-chose. Parce qu'en définitive, quand on vous dit que Genève enterre le numérique à l'école, c'est simplement que une proposition a été contrariée par le gouvernement, c'est-à-dire que ils avaient fait une proposition d'équipement à hauteur de 22 millions de francs pour des trucs assez basiques, hein, en France, à savoir tablettes et Wi-Fi. Donc, moi, ça me rappelle des choses, hein, je ne sais pas. Mmh. Et on vous explique que ceux qui s'y ont posé en premier, c'était les syndicats d'enseignants, parce que ils n'ont pas été associés au projet. Là, ça me laisse un doux rêve en tête. Là. Ensuite, on vous indique que les objectifs pédagogiques, il fallait les mettre avant le matériel. Alors là, je trouve cette phrase magique. Et en fait, le rapporteur de la commission des travaux pour ces deux projets de loi, parce qu'il y avait deux projets de loi quand même, indique que si le gouvernement passe son temps à rétro-pédaler sur les projets, c'est pas qu'il freine des cas de fer, c'est juste simplement que ces projets sont totalement peu aboutis, immatures dans ce qu'ils proposent, et que eux pensent qu'ils ont besoin de projets mûrs, pensés, pour lesquels on a consulté les personnes concernées. Écoute, franchement, ça peut que parler à des gens qui, en France, à qui on a dit, pour certains, allez, voilà des tablettes, prenez-les. Et derrière, débrouillez-vous, faites des trucs avec. Ah ouais, quand même. Bon, après, c'est sur le principe, c'est simplement pour rebondir là-dessus. Ça m'amuse toujours de voir comment un titre comme Genève enterre le numérique cache en fait un pauvre projet mal ficelé qui a été retoqué parce que, bah, oui, normalement, les projets mal ficelés doivent être retoqués, tout simplement. Voilà, après, il n'y a pas énormément de trucs à dire. J'en vais en profiter par contre, tu vois, pour un titre qui me semblait très, très étrange. C'était dans le numéro 101 des Nipédu. C'était La vérité pour les profs. Alors là, le titre m'a interloqué. Je fais, là, la vache, attention, terrain glissant, quoi. Et en fait, franchement, je me suis régalé à écouter leur numéro.
Ouais,
notamment la partie sur Céline Alvarez. Alors, merci d'avoir lu le bouquin, de nous en faire une petite. Et encore, je les ai trouvés sympas, je pense, comme ils savent le faire, rigoureux, mais sympas. Et franchement, ça a été un plaisir. Ça et Jonati, je ne connaissais pas plus que ça. Là, ça a été un régal. Une émission, je l'ai appréciée et elle était très instructive et elle tenait, même si le titre m'a au départ, je me dis, mais sur quoi ils vont aller, quoi ? C'est quoi la vérité ? Enfin, en fait, non, je l'avais mal interprété. Et ils ont su faire un contenu très bien. En plus, ils citent votre serviteur, donc moi, ça m'a fait plaisir.
Oui, oui, ils t'ont cité, ouais, tout à fait.
Voilà, écoute, à un moment,
forcément.
Voilà, non, mais tu sais, quand tu es en train de faire ta vaisselle, et d'un coup, tu entends ton nom dans le podcast que tu fais. Oh, ouais, pas mal, merci. Non, bon. Hormis ce petit détail trivial, sincèrement, un bon numéro. Vraiment, un bon numéro. Si vous n'avez pas d'avis sur Céline Alvarez, si pour vous, c'est un truc que vous ne comprenez pas, etc., écoutez, ça peut vous donner de bonnes bases. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit, parce que j'ai des critiques très personnelles à l'encontre de cette ex-collègue, mais franchement, je pense qu'ils ont fait, un bon boulot dessus. Et la présentation de Jonati, pourquoi ça pose problème, son approche d'évaluation, etc., je l'ai trouvé super clair.
Ouais, super clair, aussi, super clair. D'accord.
Voilà.
Tout à fait, c'est un très bon numéro. En tout cas, vous conseille Nipédu 101.
Tout à fait.
Toi, tu as un
drôle d'acronyme, non ?
Pourquoi ?
RNRE. C'était pas toi.
Si, c'est moi. RNRE 2020. Bon. Les rencontres nationales de la robotique éducative. J'en parle depuis un petit moment. Déjà,
mais tout à fait.
Puisque c'est un peu d'autopromo à chaque fois.
Ah bon ?
Et là, c'est simplement que les inscriptions sont ouvertes. Ça y est. Vous pouvez vous inscrire. En tout cas, vous allez sur le site de l'ENS de Lyon. Et vous allez trouver ça facilement, en tout cas les quatrièmes rencontres nationales de la robotique éducative. Oui, c'est un peu de l'autopromo parce que c'est vrai, je suis dans le comité d'organisation. Mais bon, en tout cas, vous avez un programme assez riche, en tout cas sur 2 jours, voire sur 3, mais le 17 janvier, c'est un peu particulier. Le 15 et le 16 janvier, en tout cas 2020, l'ENS de Lyon, dans les locaux de l'IFE, vous allez plusieurs thèmes, en tout cas en quoi les robots, les objets connectés concourent-ils aux apprentissages disciplinaires et transversaux ? Quelle est leur contribution au développement de l'approche STEAM ? L'approche STEAM, pour ce que je rappelle, sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Dans quelle mesure ont-ils en tout cas un apport pour l'acquisition des compétences du 21e siècle ? Le cadre de référence des compétences numériques. Voilà, qu'en est-il des données générées au cours des usages pédagogiques des robots? Quel enjeu, quel risque, quelle perspective, en tout cas, sur la robotique. Donc, vous avez vraiment un programme assez riche sur ces 2 jours, avec en point d'orgue deux conférences de Margarida Romero, qui va ouvrir en tout cas le bal avec l'évaluation des apprentissages en robotique pédagogique le mercredi, et le jeudi vous aurez le jeudi j'ai perdu mon truc comme d'habitude, hop, André Tricot qui va nous parler des outils numériques, pourquoi faire. Ils seront en tout cas avec des entremêlés de communication, d'ateliers, en tout cas, sur divers sujets qui mélangent vraiment, en tout cas, praticiens, chercheurs, industriels. Un mélange que j'affectionne beaucoup, hein, tu le sais. Voilà, et sur plein de domaines, sur du premier degré, du second degré, du lycée, même, on verra même du lycée agricole, ce qu'on voit pas souvent en robotique, du supérieur, voilà. C'est un programme en tout cas très riche. Je vous invite en tout cas à vous inscrire et à venir en tout cas me taper la discute si vous me trouvez pendant ces deux jours. Voilà.
Oui, n'ayez pas peur, il est très gentil.
Voilà. Voilà, j'ai fait ma petite promo là-dessus.
Voilà, je pense que à la suite de ça, Jeff prendra une émission pour lui tout seul et il fera l'émission tout seul. Voilà.
C'est ça.
Je vous ferai un petit retour dessus,
bien sûr.
Non, on veut un gros retour là, Jeff. Attends, tu organises, tu es dedans. On veut un gros retour.
Un gros retour. Allez, ça marche. Ouais. Ça marche. Allez, on passe à nos outils.
Allez, on passe aux outils.
Je vais te laisser commencer parce que je vais, moi, rebondir sur ce que tu vas nous proposer.
Tu vas rebondir sur mes propos.
D'accord. C'est ça.
Il n'y a pas de souci. Alors, moi, cette année, mon ambition, mon envie, c'était de reprendre mon iPad pour le boulot de tous les jours. J'ai un iPad depuis un bon petit moment et je l'utilisais il y a quelques années pour le boulot, puis j'avais un peu laissé tomber, j'étais revenu au papier. Et là, j'ai trouvé ce qui me correspond à peu près, c'est-à-dire un bon compromis entre mon envie de griffonner sur des petites notes de papier vite fait pour des petites tâches, pour mes élèves, etc., pour me souvenir, parce que, bon, pour vous donner peut-être une idée, par exemple, j'ai un programme en mathématiques, mais j'ai mes trois niveaux à gérer dans le même temps. Alors, j'arrive très bien à jongler avec les trois, c'est pas ça qui me pose un problème, mais en mathématiques, comment vous dire, quand vous proposez au CM2 de travailler sur le nombre 182 500 et que vous partez chez les CE2 leur expliquer comment se compose le nombre 1001 et qu'il faut que vous reveniez au CM2, c'était quoi le nombre déjà, purée mince. Bon, voilà. En fait, toute l'idée, c'est de réussir à m'organiser un tout petit peu. C'est le genre d'organisation que je fais toujours au dernier moment. Ben, généralement, je prends des petites feuilles. J'ai toujours des quarts de feuilles là, sur mon bureau et je griffonne dessus, mais forcément, je les paume. Et puis alors, je ne vous parle pas un jour plus tard. Et sinon, de l'autre côté, ben, j'avais mon iPad. Alors, mon iPad, c'est très bien, mais je trouve que c'est toujours un peu long d'aller taper, etc. Les trucs, les machins, les notes, c'est toujours... Moi, j'ai toujours cette envie de faire un peu plus propre, etc. Et ben, cette année, je me suis trouvé un petit espèce de petit flux de travail, de workflow, comme on dit chez les technophiles. Et le point d'orgue, c'est que par exemple, voilà, ma journée, je la prépare avec ce sympathique service d'EduMove, qui me propulse donc à la fin ma page de cahier journal en format PDF. Ça, je le récupère sur mon iPad. Et qu'est-ce que j'en fais? Ben, je l'envoie sur un service qui n'a rien de neuf, qui existe, mais depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux iPads, c'est Notability. C'est une application de gestion des PDF, enfin de gestion d'ouverture des PDF, d'annotation des PDF, mais elle est à la fois très simple et très puissante. Très simple parce que ça vous propose des tas de choses à la iOS, c'est-à-dire que vous pouvez faire énormément de choses, mais les fonctions de base sont celles qui sont les plus facilement accessibles. Alors moi, je vais récupérer ma page de cahier journal et je vais pouvoir griffonner dessus, barrer ce que j'ai pas fait ou barrer ce que j'ai fait, mettre en surligner ce que je n'ai pas fait. Donc tout ce que vous allez trouver habituellement et que même on pourrait me dire, ah oui, mais tu sais, maintenant c'est d'office dans les iPads, tu peux le faire sans avoir ça, mais il y a d'autres petits trucs que j'aime bien. Par exemple, j'ai une grosse préparation pour les mathématiques, pour réussir à me débrouiller avec mes trois niveaux. Et donc, parfois, j'ai pas plus d'indications que le travail de la division. Alors, c'est très sympa, mais le travail de la division, ça veut dire que je vais préparer plusieurs niveaux de division et je vais les proposer à, par exemple, à mes CM. Là, dernièrement, je vais proposer, ben voilà, vous choisissez, vous avez trois niveaux avec plusieurs divisions, vous choisissez celui que vous voulez, vous essayez, vous tentez, et ensuite on va corriger pour voir, etc. C'est sympa, mais la correction de ça, je la faisais le jour suivant. Donc il fallait que je garde quelque part. Donc ce que j'avais préparé, c'était un quart de feuille. Ben, ce que j'ai pu faire tout simplement et qui est génial avec Notability, c'est qu'on va lui dire, ben, tiens, je vais rajouter un truc. Il y a un petit plus, okay, j'ajoute un plus. Photo, tac, je prends la photo, alors forcément elle est superbement cadrée, hein, parce que je suis un photographe professionnel, alors il y a la moitié de la souris qui est sur le bureau, il y a la moitié du clavier, mais il y a un petit tout, j'appuie une fois, on me propose de recadrer, je garde uniquement ce qui m'intéresse, et ça, je le redimensionne et je le colle dans ma préparation, c'est-à-dire que je complète directement ma préparation sans avoir besoin d'ouvrir des trucs à droite, à gauche, c'est assez, franchement, Je me suis dit, mais punaise, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, quoi. C'est le mix parfait entre mon envie de griffonner et mon besoin d'avoir retrouvé les trucs facilement sur l'iPad. Sachant qu'avec l'iPad, ce que je peux faire aussi, c'est si j'ai l'autre... Ben, cette semaine, j'étais en train de gérer les exercices de mes élèves et puis je vois qu'il y en a une qui avait un souci, c'était sur le passé composé. J'ai été récupérer dans mon drive une source que je depuis des années, que je composais moi-même, et je l'ai collé dans mon OneNote, tout ça sur l'iPad, et je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas compliqué, tu as le lien, tu peux aller voir, et hop, elle s'est connectée, elle avait directement sa feuille d'exercice, je lui ai dit, tu fais le temps, c'était réglé. Tout ça sans bouger de mon truc, sans bouger de mon iPad. Alors, ça fait peut-être un peu le kéké qui se balade avec son iPad dans la classe. Bon, les gamins, ils sont habitués, ils ne font même plus attention. Mais ça donne vraiment, je dirais qu'il y a un véritable plus pour moi. Ce n'est pas simplement du gadget. À une époque, j'avais un iPad parce que j'aimais ça et ça faisait un peu gadget. Là, plus du tout, parce que en définitive, on passe à un autre niveau et ça m'apporte quelque chose que ni le papier tout seul, ni l'iPad lui-même tout seul ne saurait faire, mais un mix où moi, je trouve mon équilibre. Alors, Notability, c'est ça que j'ai trouvé. Alors, ça fonctionne bien parce qu'il y a j'ai l'application de Drive derrière, mais l'application de Drive elle-même, je m'en fiche un peu parce que sur les iPads, j'ai une application dont j'avais déjà parlé, mais il y a fort, fort longtemps. Elle s'appelle Document. Alors, Document, si vous ne connaissez pas, prenez-la. Parce que si vous avez plusieurs services dans le cloud, il peut tous les connecter ensemble et vous faire un super explorateur de fichiers.
Alors, il paraît que sur la dernière mise à jour d'iOS, on peut s'en passer de Document, c'est vrai ?
Alors écoute, moi j'y ai pas accès parce que mon iPad, ça fait des années que je l'ai et il est bloqué en 12.4 et quelques. Voilà. La dernière version d'iPad, elle est en 13. Je sais pas, je suis pas un grand fan de leurs fichiers. Je trouve pas ça super clair pour moi. Tu vois,
c'est, non, j'ai eu cette discussion un peu plus tard que la semaine dernière, donc j'avais proposé Document justement pour faire du en lien avec le réseau de l'établissement, quoi. On passait par là avant et là on m'a dit que maintenant avec la nouvelle version, voilà, on pouvait se passer de Documents.
Oui, alors après il y a un truc que j'aime bien sur Documents, c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi, c'est que ça me prend, allez, je vais dire, quand je suis un peu fatigué, un peu malade comme aujourd'hui, 5 minutes pour transférer un document de l'ordi à mon iPad et vice versa sans le brancher. Parce que tu as un petit service de transfert avec une adresse mail à taper, voire mieux, quand tu tapes l'adresse, il te propose un QR code à scanner, ça va connecter l'iPad et l'ordinateur. Mmh. Et là, tu peux transférer des documents, les téléverser. C'est quand même pas mal. Et puis, tu peux le connecter à une application de scan. Et puis, tu peux faire... C'est-à-dire que Documents lui-même, tout seul, peut-être, maintenant, je... Ben, après, j'ai envie de te dire, tu vois, moi, je ne peux pas m'en passer. J'ai un iPad qui sera plus
mis. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est une question comme ça. Hein.
Ah non, mais
j'ai eu cette discussion, je te disais, la semaine dernière. Ouais.
Voilà. Mais franchement, je la conseille toujours. Parce qu'il y a un côté, c'est un mix, je trouve très bien, entre ce qu'apporte l'iPad et ce qui manque, et le côté que j'aime bien de l'explorateur basique de fichiers de chez Windows. À savoir, je peux aller voir mes documents dans le cloud, ou je peux voir les documents que j'ai sur l'iPad, on peut même annoter certains documents directement, certains PDF directement dans de Documents, c'est possible aussi. Donc voilà.
Très bien.
Ouais. Alors rebondis maintenant.
Bon, c'est bien beau tous ces trucs de ces GAFAM là, de ces
ouais,
là, de tous ces
à fond. Ces...
américaine là, tu m'as pas sorti, t'avais pas une seule société qui était pas américaine.
Tu sais, j'ai cité du Move.
Ah pardon.
Du Move, c'est français, monsieur. Hein, voilà. Et puis bon, vu tout l'argent qu'il m'envoie pour que je parle d'eux, il faut bien que je le fasse, tu t'en doutes.
C'est vrai que tu touches des pourcentages, c'est vrai. Donc moi j'ai trouvé, en ce moment on était un peu dans le boulot en tout cas pour parler un petit peu. On essayait de trouver en tout cas des alternatives à tous ces grands groupes américains et pourquoi pas dans le libre. Et je suis tombé sur un site en tout cas qui est super intéressant qui s'appelle switching.software, qui justement qui est là pour lister plein de d'alternatives en tout cas à aux grands américains quoi, donc YouTube, Instagram, Gmail, Google Calendar, tous les outils Google, les Doodle, les Minecraft, les j'en passe, Slack par exemple qu'on utilise souvent.
Ouais, c'est le mal, Slack voilà. C'est le mal.
Voilà. Donc en fait je trouve plutôt intéressant en tout cas ce site en tout cas, il propose plusieurs alternatives. Si je prends YouTube par exemple, eh ben c'est l'application PeerTube que j'ai, il me semble avoir parlé en tout cas de cette application qui est du YouTube un peu décentralisé, c'est-à-dire que on peut avoir un serveur de fichiers vidéo, c'est ce qu'on a mis nous par exemple en place dans l'académie. Et qui fait le lien avec d'autres instances, en tout cas un peu partout, et qui marche plutôt bien. Voilà, donc c'est des alternatives qu'ils proposent. Des alternatives à Gmail, ben il y en a pas mal. Gmail qui a quand même mauvaise réputation, plus en plus de mauvaise réputation de scan de mail, par exemple. Il y a les fameux Proton Mail qui a eu un petit peu le vent en poupe un moment. Alors des trucs que je connais moins, Tutanota, Posteo, etc. Que des mails un peu plus sécurisés. Je peux continuer. Alternative Google Maps, bon, elle est assez simple, c'est OpenStreetMap qui prend de plus en plus d'ampleur. OpenStreetMap qui est même rentré au lycée dans les programmes du lycée, par exemple OpenStreetMap, et qui beaucoup maintenant de sociétés utilisent les cartes OpenStreetMap. Voilà, t'en veux d'autres des alternatives?
Allez, vas-y, lance. Ça,
qu'est-ce que tu veux? Alors, alternative à Slack, par exemple, j'en parlais. Je ne connaissais pas du tout la Matrix Riot. Voilà, un truc open source. Donc, il propose les applications, il propose les logiciels, etc. Un qui nous fait souvent défaut, qu'on a du mal à se passer, c'est Google Forms. Vous savez, les formulaires de Google. Ouais. Moi, le premier, il propose des solutions comme Lime Survey qui marche très bien, mais qui est un peu lourd puisqu'il faut l'installer sur des serveurs, etc. Il y a un autre qui s'appelle Waveform. Donc voilà, ça, c'est à tester. En tout cas, moi, je trouve que c'est une mine. Moi, je suis content que ça existe, ce genre de truc.
Tout à fait.
Voilà, donc voilà les alternatives WhatsApp par exemple, hein, où on a Signal par exemple qui est une alternative sécurisée. Là, voilà, donc
j'étais sur Adobe Creative Cloud parce que je connais un peu là tu. Ouais, les noms, c'est vrai, bah tu as GIMP, tu as Inkscape, Krita, Darktable. Ouais, non, ils ont fait. C'est un bon annuaire en fait.
Ouais,
c'est,
tout à fait.
C'est un bon annuaire.
Avec une petite explication. Oui. À chaque fois. Je trouve bien fait en tout cas. Ouais. En tout cas, une alternative à Skype, c'est Jitsi, c'est ce qu'on utilise en ce moment. Alors tu vois, c'est bien. Hein, on utilise du libre.
Non, je suis en train de regarder, ils ont même été chercher des alternatives à Patreon. Patreon, c'est ouais, le Tipeee américain pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc voilà, ça le mérite d'exister en tout cas. Si vous cherchez tout le temps, au lieu de prendre le premier qui vient, celui qui vous fait le plus de marketing, peut-être qu'aller chercher du côté de switching.software. Voilà.
Après, si je veux faire pas mon troll, hein, mais mon avocat du diable, faut quand même admettre que parfois certaines solutions, hein, même tu l'as un peu dit, certaines solutions ne gagnent pas par rapport à, je dirais, au lobbying qu'elles font ou à la publicité qu'elles font, mais parce qu'elles ont une expérience utilisateur super simple. Alors on la paye, hein, avec nos données, hein, il faut pas se leurrer, mais c'est vrai qu'elles sont, bah, Google Form, tu vois, t'arrives, tac 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 tac, t'as fait 5 clics, t'as un formulaire qui est propre, qui est sympa et agréable.
Non mais c'est sûr que là, ils ont toujours une longueur d'avance, y a pas de souci. Ouais. Mais bon, ça fait réfléchir en tout cas. Moi, voilà, ouais, donc.
J'en profite d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Si vous aimez le libre, si ça vous intéresse, si vous voulez un petit peu d'actualité, etc. dessus, vous pouvez écouter le podcast Le Mug. Les épisodes du jeudi qui sont présentés par Guillaume, c'est un peu son dada. Le libre, par exemple, il va vous parler de ce qu'il a fait sur son téléphone, comment il essaie de se passer de. Il a un Android sans Google, par exemple, sur le téléphone, etc. Donc ça peut, si vraiment c'est quelque chose qui vous branche, allez jeter une oreille attentive là-dessus.
Eh bien, super. Je crois qu'on a récupéré le troisième baron, il me semble, non?
Eh oui.
Salut.
Salut. Oh là, avec un son de l'espace, là, non?
Ouais, c'est pourri, non?
Pas pourri, non, c'est pas ça. Mais tu peux sortir du placard maintenant, Guillaume. Allez, vas-y.
Ouais, je suis désolé, c'est un peu compliqué en termes de matériel ce soir, mais on va faire comme ça, hein?
Comment ça va? Ça va?
Ça va bien, la course
Bon,
de décembre.
ben oui, je me doute bien. On en est aux outils. Est-ce que tu avais quelque chose de particulier sur les outils? Non.
Alors, j'avais un outil effectivement que j'ai pas eu le temps de mettre dans les notes de l'émission et j'en suis désolé. Je vais couper ma caméra parce qu'elle ne sert à rien pour le moment et que ça me prend de la bande passante. Mes excuses. Voilà, j'avais un outil en fait qui sert en fait pas vraiment tous les jours, bien évidemment, mais de temps en temps, c'est la possibilité en fait de séparer. Les paroles de la musique d'un fichier audio. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent en langue vivante, puis même sur des classes, on va dire sur des clubs ou d'autres choses, d'avoir besoin de faire chanter un peu les élèves, voilà, et on n'a pas forcément envie d'avoir la voix principale après l'avoir travaillée. Alors vous allez me dire, hein, il existe des versions karaoké. Alors c'est vrai que très souvent sur YouTube, on trouve son bonheur, mais souvent les versions karaoké, c'est des versions qui ont été rejouées par d'autres musiciens avec parfois des sons synthétiques. C'est pas toujours les versions originales, c'est jamais de très bonne qualité. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, d'un point de vue, je vais pas faire un cours de musique assistée, mais on peut, en fait, il y a rien de magique là-dedans. On peut par un travail d'équalisation, par un certain nombre de technique musicale, arriver, si vous voulez, à vraiment, alors c'est pas enlever, comment dire, de manière nette et précise, hein, mais de faire en sorte qu'on n'entende presque plus la voix principale. Alors comment ça marche, en fait, c'est juste que sur un fichier audio, il faut savoir que c'est sur des fréquences, hein, je sais pas, les profs de physique connaissent, enfin tout le monde connaît les fréquences audio, comment ça fonctionne, et en général, les voix des chanteurs se situent dans des bandes de fréquences très particulières et avec des outils qui permettent en gros de les gommer, on va dire ça comme ça. C'est pas nouveau du tout hein, comme truc. Hein. Moi, je me rappelle d'avoir acheté il y a très très longtemps hein, une Chenifi, encore avec des cassettes, qui
Bien
avait cette
sûr.
fonction-là. Hein. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que maintenant, voilà, il existe un outil qui le fait et qui le fait très très bien. Ça s'appelle Melody ML. C'est donc en ligne, hein, tout simplement. Jeff, je te mettrai ça dans les liens, pas de problème. Et ça fonctionne vraiment très très bien. C'est plutôt bluffant. Et en fait, au-delà du fait de séparer la voix de l'audio, il y a un autre truc qui est encore plus bluffant, par contre, c'est qu'il est capable de t'envoyer deux pistes. C'est-à-dire que sur un fichier, tu récupères l'instrumental, on va dire, et sur l'autre fichier, tu récupères que la voix. Et ça c'est un peu la nouveauté quoi. Et ça m'a vraiment bluffé. Bon, c'est encore pas parfait, mais en tout cas c'est plutôt bluffant. Voilà. Donc ma foi c'est plutôt très bien. Voilà.
Voilà, mélodie.ml, hein, avec un Y, le mélodie. Voilà.
Tout à fait. J'en ai un deuxième éventuellement un peu toujours dans la même veine. Si j'ai le temps, éventuellement.
Vas-y, vas-y.
Voilà, c'est toujours dans les fichiers audio, puisque j'ai pas mal travaillé là-dessus, et puis un des sites de veille que je suis en parle pas mal. Nous, les profs de langue, on a souvent besoin de faire des transcriptions de fichiers audio. C'est-à-dire qu'on entend une vidéo, et puis on va avoir besoin d'avoir le script associé. Donc bon, bah, il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit vous vous cognez le script à la main, hein, et ça peut être assez long si la vidéo est longue, soit des sites comme TED, les fameuses conférences, proposent directement les scripts, ça c'est pas tous, soit vous passez par un site dont j'avais parlé ici il y a longtemps qui s'appelle Rhinospike, qui est une communauté en fait de profs de langue où vous envoyez un script et les gens sympas vous le font pour vous en échange de scripts que vous faites dans votre propre langue, voilà, mais bon, ça c'est vraiment de la communauté. Sinon, il y a des outils en fait hein, qui reconnaissent la voix et qui transcrivent, vous allez me dire à la manière d'une dictée vocale aujourd'hui, hein, quand on dicte un texto ou autre. Voilà, donc il y en a un qui fait ça très bien qui s'appelle O-Transcribe, mal prononcé, donc O-Transcribe. Donc c'est tout simplement ça, hein. Vous mettez un fichier audio en ligne et il est capable de vous transcrire ce qui a été dit. Alors on est bien d'accord que là c'est vraiment pour de la voix, hein. Vous avez enregistré une conférence, vous avez enregistré.
Ouais.
C'est pas de la musique, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, il faut faire attention au bruit de fond parce que voilà. Et de la même manière en fait que les sous-titres automatiques YouTube, hein, c'est exactement la même chose. Il peut y avoir des erreurs, bien sûr, hein. Donc il faut pouvoir derrière le relire le relire et le corriger. De plus, cet outil est intéressant parce qu'au fur et à mesure de la transcription, vous avez une fenêtre qui s'affiche et qui vous permet en fait de faire directement un brin de mise en page, de faire des alinéas, des sublignes en fonction de ce qui a été dit, si vous avez déjà marqué des paragraphes ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle O-Transcribe. Voilà, voilà.
O-Transcribe. Ok, tu me rajouteras ça dans les notes.
Je te mets ça dans les notes de l'émission de suite, monsieur.
Ok, super. Truc et astuce.
Truc et astuce, c'est à toi.
Allez, avec moi. Une petite astuce dans LibreOffice. LibreOffice, hein, j'avais vu, je suis dans le libre aujourd'hui. Hein. LibreOffice, hein, donc que je on présente plus, enfin le traitement de texte libre. Pas plus tard que cet après-midi, j'étais en train de mettre en place un ordinateur pour des élèves dyslexiques qui avaient du mal, en tout cas, sur la lecture, etc. Cherchais justement un outil de synthèse vocale, c'est-à-dire qu'ils puissent lire le texte à la voix. Et je voulais pas que ce... Alors, il existe plein de sites, hein, j'en avais déjà parlé de quelques-uns, il me semble. Hein. Souvent c'est du faire du copier-coller, mettre sur un autre logiciel, etc. Là, je voulais vraiment qu'ils soient intégrés à LibreOffice. Donc, il existe des extensions LibreOffice. Souvent, on le sait pas qu'il existe de ces extensions. Il y a une extension qui s'appelle Read Text, tout simplement. Read Text, vous la trouvez en tapant ça sur un moteur de recherche ou directement dans les extensions de LibreOffice, et qui va tout simplement, vous allez sélectionner le texte que vous voulez, vous avez un document LibreOffice, vous sélectionnez le texte et vous avez une petite bulle en haut comme une BD qui se met dans la barre d'outils de LibreOffice, et quand on appuie dessus, en tout cas, on entend le texte parler. Alors, je voulais le faire, mais je crois que ça marche pas.
Podcast est né de la passion commune de deux enseignants, J.F. Simon et Guillaume Augier, de matières différentes, anglaise et technologie. Après de nombreuses discussions, ils se sont aperçus que de nombreux...
Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose.
Oui, tout à fait. Nous avons entendu ce que tu avais fait.
Alors, la synthèse, c'est la synthèse vocale directement du moteur Windows. Hein. Je sais qu'on peut rajouter aussi des synthèses différentes, des voix différentes, sûrement moins robotiques que celle-ci. Mais moi, je ne suis pas allé chercher plus loin, mais je trouve que c'est bon, c'est un outil qui est assez pratique. Il y a des élèves qui sont demandeurs, en tout cas, de ces petites synthèses vocales. Voilà, mon petit truc et astuce.
Si je peux continuer un peu là-dessus, puisque c'est là aussi des outils très très utilisés en langue depuis longtemps, il existe plein plein de sites. Alors ça passe par du copier-coller là, ce qui est intéressant,
oui, c'est intégré. Ouais, c'est ça qui
c'est intégré à l'outil. Après, dans les synthèses vocales en site internet, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes, quoi. Bon, voilà, ça a toujours ses limites d'une voix robotique, mais franchement, je trouve que moi qui fais partie de la génération de profs qui ont vu arriver ça dans les années 2000. 2004-2005, au début du Web 2, c'est quand même assez bluffant ce qu'on arrive à faire. En anglais, maintenant, c'est loin d'être naturel, bien sûr, mais ça s'est vraiment amélioré, la ponctuation, tout ça, et c'est quand même une sacrée aide, quoi. Je trouve que c'est vraiment chouette.
Oui, oui, là, alors, pour la petite anecdote, moi, ce que j'avais proposé à mes élèves, alors, j'en ai un à qui ça sert assez souvent, et aux autres, je l'avais proposé pour leur faire comprendre la différence qu'il y a entre simplement décrypter un texte et lire un texte, tu vois, y mettre de l'intonation, y mettre quelque chose, voilà. Ça peut être aussi rigolo dans ce sens-là.
Ah oui, bonne idée. Ouais.
Très bien.
Ok. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi changer la voix dans d'autres langues, hein, tout à fait. Hein. On pouvait le faire.
Bien évidemment.
Allez,
je me permets juste de finir là-dessus. Pour info, pour les utilisateurs de machines Apple, c'est un machin qui existe de manière native dans macOS depuis le tout premier macOS 10, hein, donc depuis 2000, on va dire 2002.
Sur les iPads, pareil.
Ah, c'est vraiment un truc. À la base, c'était vraiment pour de l'accessibilité. Hein, ça s'appelle VoiceOver. C'est vieux comme le monde chez Apple et ça. Configurer la touche comme vous voulez, mais c'est assez bluffant, quoi. Voilà.
Ok. Innovation, expérimentation.
On t'écoute.
Oui, donc là j'ai trouvé un petit article sur l'excellent site TIS Éducation, TIS-Éducation, l'éducation numérique que vous connaissez sûrement. C'est un article en tout cas qui a été signé par toute l'équipe. et pas par quelqu'un de particulier. En tout cas, ce site-là, je vous conseille, il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, qui ont fait un site, qui ont fait en tout cas un état des lieux, en tout cas, de l'utilisation du numérique éducatif, un petit peu, de se demander s'il était si efficace en France. Et ils se sont appuyés de plein d'articles, de plein d'études, et c'est ça qui est intéressant. J'ai pas eu besoin d'aller lire toutes les études, hein. Déjà c'est déjà pas mal. Donc ça, vous le trouverez sur le, donc je disais dans TIS Education, le site c'est tis-education.fr, et le titre de l'article c'est l'utilisation numérique éducative est-il si efficace en France. Il part du constat que l'éducation numérique a été considéré comme la baguette magique qui allait tout révolutionner dans les salles de classe, mais que les résultats qui ont été obtenus ont été jusqu'à présent très décevants. Dans la réalité, beaucoup d'enseignants rencontrent des difficultés, hein, pour mettre en place, en tout cas, pour utiliser ce numérique éducatif. Donc, ils vont en tout cas s'appuyer sur des études. Et il s'appuie en première chose sur la dernière étude internationale sur les compétences scolaires des adolescents en matière de numérique, révèle quelques surprises et montre que l'enseignement du numérique est moins simple qu'on ne l'imagine. Il dit que de manière plus générale, et pour le grand public, il y a vraiment un manque de compétences digitales qui a été faite en tout cas par une enquête de l'INSEE sur justement ces compétences digitales au niveau du grand public. Dans l'éducation, ils font le constat que le numérique dans l'éducation dispose sans nul doute d'un potentiel encore inexploité et pourrait être une aide précieuse pour les enseignants. Il faut en tout cas, c'est ce qu'ils disent, que les responsables politiques français définissent une stratégie claire en ce qui concerne les changements de cette technologie qui devrait apporter. Ils s'appuient sur ce qu'on appelle le Global Teacher Status Index. Je ne sais pas si vous connaissiez ce Global Teacher Status Index.
À tes souhaits.
Voilà, qui est en fait la fondation Varki qui compare en tout cas l'éducation dans nombreux pays dans le monde. Alors, je dirais pas tous les pays dans le monde, mais dans de nombreux pays dans le monde, qui compare un petit peu le niveau d'éducation et qui compare presque les enseignants entre eux. Hein, voilà, qui révèle en tout cas que les enseignants en France travaillent en moyenne, ils disent 37 heures par semaine, soit plus que la moyenne du reste de la population active française. Et que cette réalité est sous-estimée par le public, tant mieux pour nous, hein, on revalorise, c'est bien. Par ailleurs, ils se sont de plus en plus pris par des tâches autres que le cœur de l'enseignement. Donc, beaucoup qui est. Donc, ils disent que 64% de leur temps, c'est de l'enseignement, et le reste du temps, ben, c'est beaucoup de tâches administratives. Donc, ils se disent, voilà, nous devons garder à l'esprit que la technologie ne remplacera jamais le lien que les enseignants partagent avec les étudiants. Il s'appuie sur un nouveau rapport du groupe Atlantis, qui est composé de 26 anciens ministres de l'enseignement et chefs de gouvernement du monde entier, qui montre que les solutions technologiques peuvent aider, en tout cas en ce sens, hein, de toutes ces tâches déjà administratives, etc., et plus même. Elles peuvent mettre à disposition des enseignants et étudiants un large éventail de ressources, ouvrant de nouvelles perspectives, mais aussi proposer de nouvelles approches aux concepts et faciliter l'accès à l'apprentissage. En réduisant le temps que les enseignants doivent consacrer aux tâches administratives, cela leur permettrait de se dédier davantage à l'enseignement direct, crucial pour les étudiants. Rendre l'éducation plus accessible aux élèves aussi défavorisés.
Tu veux qu'on attende que tu aies fini de lire l'article pour sauter?
Vas-y.
Non, mais moi, ce qui m'amuse quand même, c'est qu'on est en train de dire, tiens, ce serait pas mal que la technologie arrive pour réduire les tâches administratives. On n'a pas besoin de la technologie pour réduire les tâches administratives. Il faudrait juste arrêter les tâches administratives. Voilà, c'est l'ancien directeur qui vous parle. Franchement, les tâches administratives, si vous voulez savoir à quel point la technologie parfois ne les facilite pas, c'est qu'une fois on m'a demandé de remplir une enquête et de faire une capture d'écran pour prouver bel et bien que j'avais rempli l'enquête parce qu'on ne savait pas si le site allait tenir ou pas.
L'article va rebondir sur ça, c'est très bien.
Mais c'est merveilleux alors, parce que là, si on le sait tous, hein, la France et l'administration sont deux choses dont l'amour est impossible. Non, il faut arrêter, c'est tout. Donc vas-y.
Alors, Qu'en est-il en France ? C'est un peu la deuxième partie de l'article qui nous dit que la bonne nouvelle, c'est que la France dispose déjà d'une scène dynamique de start-up technologique et d'un écosystème existant. Il y a 400 quand même start-up dans le secteur EdTech, comme on les appelle, hein, toutes les start-up liées à l'éducation. Il se base sur ce nouveau rapport encore que j'ai parlé du groupe Atlantis qui identifie de nombreux problèmes majeurs auxquels la technologie de l'éducation est confrontée dans de nombreux pays. Il est rarement possible de prouver quelle application améliore les résultats d'apprentissage, ce qui signifie que les produits les plus répandus qui restent sur le marché ne sont pas toujours les plus efficaces. Et ensuite, on revient sur l'histoire de formation des enseignants, hein, qu'on a parlé maintes et maintes fois, hein, pour utiliser ces technologies d'apprentissage. Ils disent que souvent, les développeurs de ces applications travaillent souvent de manière cloisonnée, ce qui rend difficile le partage d'outils, puisqu'ils sont vraiment tout seuls, en tout cas, à développer leur outil. Lorsque les entreprises, en tout cas, exposent leurs propositions à l'occasion de salons professionnels, les contrats sont signés par l'administration de l'école et qui n'a souvent très peu de contact avec les éducateurs qui vont les utiliser. Donc, ça répond un peu à ce que tu disais, Seb. Pas forcément qu'un outil va nous rendre des tâches plus faciles s'ils n'ont pas été en tout cas directement sur les besoins des éducateurs. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses initiatives EdTech échouent, c'est le manque d'informations sur l'expérience vécue par les étudiants et les enseignants. Il s'appuie en tout cas sur ce qui se passe en tout cas au Royaume-Uni qui a récemment mis en place en tout cas une de ces types de stratégies en créant des groupes de travail qui associent en tout cas les experts du secteur avec des entreprises d'autres technologies qui essayent de charger de proposer des solutions au gouvernement. Donc vraiment travailler à la base tous ensemble. Il conclut l'article sur l'un des défis les plus durs à relever en matière de marketing et d'approvisionnement pour les ressources numériques, et de démontrer qu'elles apporteront des bénéfices tangibles et quantifiables. C'est toujours ce qu'on entend très souvent. Est-ce que ça a été prouvé que les élèves sont meilleurs, qu'ils apprennent mieux, etc. Alors, pour prouver cela, ils disent qu'il faut disposer de compétences en techniques de recherche empirique et surtout être en contact avec des élèves pour pouvoir en mesurer l'impact. Pour résoudre ce problème, dans le cadre de sa stratégie EdTech, la France peut créer un ensemble d'écoles expérimentales qui peut-être collaboreront avec les startups pour établir des preuves sur les meilleures innovations apportées. En tout cas, ils finissent bien que la technologie est un outil au service de l'enseignement et pas autre chose. Voilà, je trouve que ils se sont beaucoup appuyés sur cette fondation que je vous ai parlé, qui est basée à Londres, en tout cas, que j'avais jamais entendu parler, qui compare un petit peu toutes ces éducations dans le monde. Des choses qu'on entend assez souvent, je sais pas ce que vous en pensez sur de travailler ensemble avec les EdTech, et que ce soit pas uniquement du marketing. C'est vrai que le choix des outils sont souvent faits par nous, en tout cas en France, on le voit par les collectivités, rarement en lien avec les enseignants. Je sais pas ce que vous pouvez rebondir là-dessus.
Bah, tu me connais, hein, j'aurais des tonnes et des tonnes de choses à dire. Bon, elle a le mérite d'exister déjà, cet article. Je trouve que il est pas trop langue de bois, en fait, pour une fois. Je trouve plutôt objectif. Le rapport sur la EdTech, moi j'ai un petit problème avec la EdTech. Je trouve que c'est une niche, en fait. C'est que on a vu énormément, enfin pas de problème en soi avec la EdTech. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jeff, mais tu vois, il y a encore 10 ans de ça, il n'y avait pas tous ces salons, quoi. Il n'y avait pas. Là, je trouve qu'il y a vraiment une. Tout ça est poussé énormément à un certain paroxysme, et pour être allé à certains salons récemment, pas cette année, même je trouve, quand je suis allé dans ces salons, j'avais vraiment l'impression que c'était à peu près tout sauf le milieu enseignant qu'on connaissait. Enfin, j'avais vraiment pas l'impression d'être dans mon truc, quoi.
C'est un peu ce que dit l'article, hein. On a les payeurs en face, quoi, et pas forcément les enseignants.
C'est vraiment l'allégorie du manque de communication, ce salon. Je me suis dit, bah voilà, si on devait représenter les problématiques aujourd'hui qu'on connaît, amener tous les gens à ce salon et on verra ça. Qu'on a des commerciaux, on a des gens rompus à cet exercice-là du salon, voilà, comme nous, on n'a pas du tout l'habitude d'être, que d'autres corps de métier connaissent par cœur. Et quand ils nous parlaient, souvent, je leur disais, mais en fait, vous vous adressez au mauvais gars, c'est pas moi qui décide, enfin, c'est pas moi qui décide d'acheter, c'est pas moi. Et à la fois, à chaque fois, des discours préétablis qui répondaient pas vraiment aux besoins que moi j'avais en discutant avec eux. Alors, des fois, ça répondait, mais pas tout le temps. Donc, j'ai un peu l'impression que il y a un truc un peu poussif, là, sur la EdTech, déjà, tu vois, d'avoir ce label EdTech, là, voilà. Alors quand je lis que la France veut créer un ensemble d'écoles expérimentales qui collaborent avec les startups, eh ben très bien, avec plaisir. De toute façon, je suis pas contre les expérimentations, mais il y a rien de nouveau sur la problématique. Le texte le dit bien, on le sait par cœur. Voilà, c'est le manque de formation et puis point barre, quoi. C'est tout. Voilà. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire.
Après, si tu veux, le problème qu'il y a aussi avec tout ce qui est technologie, c'est que tu es souvent tributaire des idées et des envies des payeurs qui sont derrière, ou des idées et des envies de nos gouvernants, à qui va vouloir... je ne sais plus lequel de nos ministres avait déclaré « Ah oui, bah tiens, l'an prochain, les collégiens n'auront plus de livres papier dans leur cartable ». Et c'était l'équipe autour qui lui avait expliqué que non, ce n'était pas possible, mais des liseuses en couleur. Par contre, ça, c'est très drôle parce que je ne sais pas si tu t'en as aperçu, Jeff, mais ça fait vraiment écho à ce dont il parlait dans le Nipé du 101, justement, sur la EdTech, sur les difficultés qu'elle avait à vraiment percer dans le domaine enseignant. Et
il avait posé une question en disant est-ce que vraiment il y a une EdTech française qui a. Voilà, qui a réussi, quoi, voilà.
Voilà. Et le problème, c'est vrai que c'était la distance entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui vont devoir finalement utiliser le matos.
Mmh. Ouais, voilà. Et moi, ça me permet de rebondir sur un autre truc dont je voulais peut-être parler, mais c'est pas grave si on n'a pas trop le temps. Mais c'était en fait, vous savez, il y a le dernier classement PISA qui est sorti là hier ou avant-hier, où justement, la France apparaît bon milieu de tableau. Bon, on sait tous que PISA mesure à peu près tout. Mesure justement pas l'ensemble de ce qu'on peut faire avec des élèves, mais elle mesure quand même la même chose pour tout le monde. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur PISA. Ce qui est mesuré, c'est ce qui est commun chez tout le monde. Et nous, on est en milieu de tableau pour ce qui est commun chez nous. Bien sûr que ça mesure pas la qualité, tout ce qu'on peut proposer en plus de ces résultats purement dans ces matières. Mais il se trouvait que ces derniers jours, ma radio, on va dire, quotidienne, était un peu en grève. Et inadvertance, j'ai glissé sur une radio un peu putassière qui commence par un R et qui finit par un C, où on a l'habitude d'avoir des débats de comptoir avec des grandes gueules qui effectivement ont dû être récupérées la veille au comptoir. Bon, peu importe. toujours un gars là qui parle un peu dans l'émission, a priori, les grandes gueules, je crois, expliquait que parlait de ce truc-là, de ce PISA, et disait un truc pas trop con. Alors, ils ont toujours des accents du sud là, disaient moi j'ai bien regardé le classement là, hein, et je peux vous dire que j'ai comme pareil. Bon, je vais arrêter de le faire, mais il pour une fois il a dit un truc qui était pas con, quoi. Il a dit, oui, parce que c'est ça que j'aurais dû dire, son propos de départ c'était de dire texto, il a dit moi quand je vois que l'éducation c'est le premier budget des ministres, de la France, et qu'on arrive juste en milieu de tableau, et ben moi je trouve que c'est abusé et qu'on n'en a pas pour notre argent. Texto, il a dit ça. Hein, donc là, vous imaginez déjà le discours. Ouais, là, et puis surtout après, il dit. Alors, une bonne base de départ. Et surtout, il dit derrière, par contre, et ça c'était vrai, il a dit j'ai comparé les pays qui réussissent le mieux, et les pays qui réussissent le mieux, ce qu'ils ont en commun, hein, c'était quand même la formation des enseignants qui était obligatoire et beaucoup plus poussée que chez nous. Et numéro 2, le salaire des enseignants qui était beaucoup plus élevé. Alors, inutile de vous dire que là-dessus, il s'est vite empressé de dire « Ouais, enfin, faut pas déconner quand même. Hein, on va pas aller plus. » Je vous jure, mais c'est un cliché. J'ai l'impression d'être dans un sketch des inconnus avec le bon et le mauvais chasseur. Mais bon, au-delà de ça, en tout cas, il avait un peu raison sur ses points communs qui étaient que les pays qui réussissent dans ce là, c'est qu'il y a plus de formation et de trucs. Et ce sont des pays qui ont su intégrer ces nouvelles technologies parce qu'ils ont été formés. Donc, c'est ce que dit finalement cet article-là sur ce constat-là. Parce qu'on aura toujours des super écoles expérimentales comme ils veulent faire là dans l'article, avec des gens motivés et compagnie, et puis la masse qui se mettra pas à jour. Et on va se retrouver encore dans des situations avec du matos high-tech, fait par la high-tech, avec plein de trucs, et les trois quarts des gens qui l'utiliseront pas parce que voilà, ils seront pas formés. Donc, je comprends pas qu'on ait pas compris ça, moi. C'est un peu ça qui m'embête. Voilà.
Tout à fait. C'est bien. Et ben voilà, J'aime bien les articles un peu qui fait, hein, qui fait réveiller un peu.
Bah ouais, parce que j'en ai marre, quoi, c'est tout. Moi, je veux bien qu'on investisse dans la high tech et c'est très bien, encore une fois, c'est très très bien, mais on tape pas, enfin voilà, là, c'est des grands coups de financement, tout ça. Et puis, en toute honnêteté, je trouve que dans ce qui est proposé chez les startups de tech, autant il y a des choses absolument géniales, autant il y a des choses qui sont franchement un peu pourries, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Ah, bah oui, l'article, c'est ce qu'il dit. Et souvent, c'est pas ceux qu'on entend plus parler qui sont vraiment. Fantastique, hein, non, c'est sûr qu'il y a des trucs pourris, forcément. Hein.
Il y a des produits qui sont faits pour être vendus, pas pour être utilisés.
Hein. Mmh. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Et j'aime bien le paragraphe qui dit que les développeurs travaillent souvent de manière cloisonnée, ce qui rend difficile le partage d'outils, de priorités, de processus avec des experts du secteur. C'est exactement ça. Et pour le vivre de l'intérieur, notamment en tant que auteur d'un manuel et travailler avec la maison d'édition, quand j'essaye de travailler avec eux sur l'apport du numérique et tout ça, on est vraiment, mais complètement à l'opposé, quoi. C'est-à-dire que dans notre matière, les seuls trucs qu'ils me proposent aujourd'hui, c'est des exercisers qu'on connaît depuis les années 90 avec Hot Potatoes, sauf qu'ils sont remis au goût du jour en 2019, mais globalement, ça fait la même chose, quoi, alors que c'est plus ça qu'on veut. Enfin, c'est juste que c'est le cadre est plus joli, ah, il est responsive, on entend que ça, ah, c'est responsive, hein, parce qu'on leur a dit une fois que les gamins aujourd'hui ne surfaient plus sur les ordinateurs, maintenant ils surfaient sur les tablettes et les téléphones, ils ont entendu que ça, les mecs, et le seul truc qu'ils t'apportent, c'est « Ah, mais du coup, ça s'adapte sur toutes les plateformes. Hein. » Et ils sont contents parce qu'ils te foutent le logo avec l'ordinateur, la tablette et le téléphone en barre de leur produit, comme on voit de partout, et ils s'estiment ça moderne. Putain, mais les gars, revoyez votre copie, quoi. Ah, ça m'énerve. Bref, en tout cas, non, mais c'est vrai. Embauchez des gens compétents qui vous conseilleront correctement, et on en reparle après. Bref, voilà, ça y est. Merci pour ce moment de lâchage.
Allez, qu'est-ce que tu fais en ce moment à part ça,
hein? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Eh ben, ouais. Je vais continuer à vous parler un petit peu de mon projet Erasmus+, parce que en fait je fais pas grand chose d'autre puisque ça me prend un temps fou. Donc je travaille de manière européenne. Alors c'est quelque chose qui est passionnant, vraiment passionnant, et en même temps très chronophage, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'on n'a pas du tout les mêmes manières justement de travailler, de sélectionner les gamins. Enfin, un truc tout bête, hein, on est à la sélection des élèves qui vont travailler sur ce projet. Ben, je peux vous dire que dans certains pays, c'est clairement les meilleurs élèves qui ont les meilleurs résultats et qui travaillent le plus, alors que chez nous, on est, je dirais pas l'inverse, mais c'est oulala, si on sélectionne que par les résultats, on va se faire taper dessus, voilà. Donc ça donne des discussions européennes vachement intéressantes sur pourquoi on fait travailler les élèves, qui va travailler, quels sont les niveaux, et ça permet vraiment d'ouvrir un peu les yeux sur justement notre manière en fait de d'évaluer, de travailler, et c'est exactement des choses comme ça que PISA ne prend pas en compte, hein. On pourrait décider qu'un projet européen comme ça, qui va amener les élèves à se déplacer, comme on peut pas prendre tout le monde, et ben on choisirait que les meilleurs quelque part, voilà. Et ben je peux vous dire que dans énormément d'autres pays européens, c'est uniquement comme ça que ça fonctionne, et ces autres pays-là ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui la France, donc mon collège, on galère autant à sélectionner nos élèves, parce que pour eux c'est évident, ça, tu bosses, tu mérites, donc tu fais ça, vous voyez. Donc c'est assez intéressant de travailler là-dessus et de réfléchir à tout ça, et ça donne lieu à quelques frictions, mais ça ouvre, voilà.
D'accord.
Voilà ce que je fais pour le moment. Je vous avoue que entre les conseils de classe, les inspections, c'est la rédaction d'un manuel, pas mal de choses, et puis le gars, hein, mais bon, on va pas en parler ici, ça me prend un peu de temps, voilà.
Seb, tu fais quoi en ce moment?
Moi, je fais mumuse avec trois petits robots que ma gentille Erune est passée me prêter pour quelques temps. Donc, j'ai trois petits Timio, pour ceux qui connaissent la marque. Je dois avouer que c'est bien sympa. Je reste sur mon idée que c'est très cher pour ce que c'est, mais ils sont bien sympas, ça fonctionne, ça passe très très bien au niveau des élèves. On est juste au mode préprogrammé, on va attaquer la programmation ensuite, mais là voilà, c'est du bon matos quand même. Et toi, Jeff?
Ben moi aussi, tu vois, je vais faire Mumuse dans pas longtemps. J'ai reçu trois mini drones là, les Telo et Du. J'en avais parlé un petit peu des petits Telo de DJI là. Et là, ils ont développé une version Edu. Justement, et donc j'en ai reçu trois, et je vais pouvoir en tout cas faire Mumuse avec aussi, et je pensais faire rapidement Mumuse avec les sixièmes, dessus sur des petites programmations. Et,
ah, d'accord. J'allais couper justement pour ça. C'est justement, ça fait partie des trucs qui me font hurler en ce moment avec la EdTech. C'est qu'il suffit de rajouter Edu à côté d'un truc et comme ça, on a l'impression que ça suffit pour que ce soit adhéré.
C'est parce qu'ils ont développé une.
Et c'est ce que j'allais dire.
Développer une plateforme de programmation.
Voilà, toi-même, tu dis, je vais faire Mumu. C'est-à-dire que, mais concrètement, les gamins, ils font quoi? Ils codent quand même pour faire voler.
C'est du code, tout à fait. C'est du drone autonome. Il n'y a pas de télécommande. On est vraiment sur du drone autonome. Voilà. Donc,
ouais, comme on faisait finalement avec la souris ou la souris, la
comme on fait avec nos petits robots, sauf que voilà, on a du drone.
Quoi, ça vole et
ça change un petit peu. Voilà, c'est un peu Noël avant l'heure. Je pense que toutes les émissions, je vais vous voir un petit, je vais vous parler de matos que je vais tester, que j'ai reçu là. Voilà, je tease un peu.
C'est chouette.
Il y aura plein de matos qui vont arriver. Voilà, donc voilà, et on fera un petit, je pense pour la journée porte ouverte de l'établissement, on va essayer de faire un truc sympa avec mes sixièmes là-dessus, avec les drones. Voilà.
Elles ont des caméras, ces drones?
Elles ont des petites caméras, c'est pas la folie, hein. C'est plus vraiment des mini-drones qui vont plus en intérieur qu'en extérieur. Hein.
Voilà. Chouette.
Voilà. On finit pour parler d'autre chose, les gars?
Allez.
Qui c'est qui va attaquer?
Oh bah écoute, le temps que Guillaume tape un truc, je vais me lancer. j'ai eu un passé de gamer dans les années 90. Dans les années 90, il y avait deux consoles qui étaient reines, qui étaient la Mega Drive et la Super Nintendo. Moi, j'étais dans le camp du plombier, forcément. Et là dernièrement, je me suis dit c'est bête, j'ai pas un truc pratique pour faire passer ça sur la télé. Alors j'avais bien bricolé un truc avec un Raspberry, mais ouais, je me suis dit c'est sympa, mais est-ce que y a pas moyen de les faire passer sur la vieille Wii qui traîne en bas de la télé? Et donc j'ai demandé à mon ami YouTube m'a dit mais bien entendu, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit mais je veux émuler des jeux sur la Wii. Il m'a dit tu sais que c'est pas bien. Je fais ouais, je sais que c'est pas bien, mais on s'en fout en fait. Et donc du coup je me suis aperçu au combien c'était simple, même si vous y connaissez rien, pour faire passer des jeux sur cette vieille bécane, surtout des jeux Super Nintendo. C'est enfantin, il vous suffit d'une carte SD, ça fonctionne. Donc j'ai recommandé du matos de Wii qui coûte plus grand chose maintenant, avec deux belles manettes pour que ma fille et moi puissions nous tabasser sur Street Fighter 2 ou mettre des bombes sur Bomberman. Donc voilà ce que je fais en ce moment. C'est j'émule des jeux, c'est pas bien, mais en tout cas c'est fun.
C'est vraiment dommage qu'on habite loin, parce que tu sais que l'émulation, c'est quand même ma grosse passion, hein, depuis que les émulateurs existent sur les premiers PC. Alors je l'avais émulé sur la Wii à l'époque, là maintenant j'émule avec un Raspberry, parce que je me suis fait une petite borne d'arcade desktop, voilà, avec un petit joystick et tout pour oh là là. Et en fait on s'aperçoit qu'on a tous 700 jeux et qu'en fait on joue tous tout le temps au même. Et moi sur ma Wii, sur ma Switch, le premier jeu que j'ai acheté, c'était quand même la Street Fighter remasterisé, parce que c'est quand même le jeu qu'on joue tous le plus. Et comme vous le savez, je fais beaucoup de musique, et dès qu'on part en tournée dans le camion et que c'est long, on amène sur mon ordinateur, on a tout le temps ça, et qu'est-ce que c'est bon quand même. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Bomberman, c'est le meilleur jeu de la Terre, le gameplay de ce jeu. Oh là là. Voilà.
Et voilà.
On devrait faire un e-teacher spécial émulation à l'occasion. Tiens.
On fera un hors série.
Hors série. Bon, et ben très bien. Et ben avant que Jeff parle, parce que je pense qu'il va y avoir du débat en plus, moi je fais quoi pour parler d'autre chose, je regarde la saison 3 de la série The Crown. J'avais déjà parlé de cette série ici, donc la série qui raconte l'histoire de la reine Elisabeth II, monarque encore au pouvoir, on va pas dire au pouvoir, mais encore à la tête de l'État quand même britannique. Saison 3, tout le temps toujours aussi magnifique. L'actrice a changé, puisque ça se situe un peu plus tard dans la période. Là, on est au début des années 70. Une nouvelle actrice qui joue absolument très très bien aussi. Et
on l'avait vu dans Broadchurch.
Tout à fait. Ouais, ça lui va bien. C'est vraiment vraiment l'actrice britannique avec un accent britannique. On ne peut plus. En pis, comme on dit, voilà, et c'est chouette, quoi. Même si vous aimez pas ça vaut le coup, parce qu'ils arrivent à tourner, à monter des histoires réelles, hein, bien évidemment, à peine romancées quand même, avec des séries, avec encore du suspense, avec vraiment, c'est fou, ça se regarde comme une série de fiction, alors que tout ce qui se passe est décrit. Alors attention, après, quand on regarde un peu, hein, y a des libertés qui sont prises, qui fait d'ailleurs hurler certains historiens, bien évidemment, mais l'un dans l'autre, quand même, c'est plutôt juste et pas mal. Voilà.
À toi de rire, Jeff.
Très bien. Oh, pas mal. Donc moi, je suis allé voir Joker, le film qu'on entend un peu parler.
Joker.
En ce moment.
Comme les boissons Joker. Du bar. Du bout.
Voilà.
Au même bar que les mecs de RMC, là, tu sais.
Joker.
Un Joker poire ou un Joker orange?
C'est pareil, c'est un Joker.
Vas-y.
Donc Joker, c'est le Joker. Un ennemi juré de Batman au départ. Moi, j'avais pas, voilà, j'avais juste entendu parler rapidement du film en lui-même. Moi, j'avais un souvenir de Joker du premier Batman. Hein, si vous voulez savoir.
De Dieu, ouais.
Voilà, donc, tu vois.
Michael Keaton,
tu vois. Avec, voilà, avec tout à fait.
Nicholson dans le rôle de.
Avec Nicholson. Ouais. Voilà, le dernier souvenir que j'avais de lui. Hein. C'est vrai que je suis pas très super héros en plus moi. Hein,
ah oui, t'en as loupé là certains quand même. Ouais.
C'est pas du tout ma cam.
Ouais. Il y en a eu un bien quand même entre temps.
Sur le personnage.
Ouais, sur le personnage, tu avais. Alors, le nom de l'acteur va m'échapper, il est mort il y a peu de temps, mais il joue dans le deuxième Batman de la trilogie.
Il est exceptionnel, voilà. C'est le meilleur Joker de jamais exister, mais c'est évident.
Voilà. Moi, j'ai pas vu. Donc, voilà, moi, j'étais un peu. Voilà, moi, je. Alors, il y aura peut-être débat, sûrement. Moi, j'ai. Je m'attendais pas à un film aussi noir, déjà, par rapport au personnage du Joker. Allez, j'essaie de prendre l'accent, t'as vu. je m'attendais pas à un personnage aussi noir, aussi sombre. Sûrement des libertés par rapport au comics, ça c'est ce qui a souvent été un peu critiqué, mais je connais pas du tout le comics. Je trouve que la performance, en tout cas de Joaquin Phoenix, est plutôt vraiment bluffante. Le réalisateur, Todd Phillips, je connaissais pas du tout, donc j'avais pas trop son travail, mais par Iris, ça ressemble beaucoup à son travail. Donc c'est vraiment sur le côté très brutal, en tout cas, du personnage, du complètement décalé, complètement
fou,
complètement dingue, ouais. C'est très dans la psychologie, en tout cas, du personnage. On est vraiment dans la psychologie du personnage, une montée en puissance de la folie ou du.
Bah, de la folie,
cauchemar, du cauchemar, quoi, voilà. Donc voilà, je suis sorti de là. Alors, tu vois, dans le ciné, il y avait beaucoup de gamins, beaucoup d'ados qui étaient là et qui, je pense, ne s'attendaient pas à ça. Parce que quelques-uns se sont levés et sont partis en plein milieu, tu vois, et souvent des ados. Moi, je trouve que c'est vraiment un film comme on en voit pas souvent.
Après,
juste je finis. Moi, j'ai pas la culture comics comme vous. J'ai pas du tout la culture super-héros. Je n'aime pas du tout les films de super-héros. Hein, je vous le dis. Ça m'attire pas du tout. Et là, je suis resté bluffé en tout cas sur le personnage, sur le film. Vas-y.
Tu veux interagir, Seb, ou j'y vais?
Oh, vas-y. Je rebondirai peut-être après.
Vous l'avez vu tous les deux, hein?
Non.
Moi, je l'ai vu et j'ai pas du tout aimé parce que justement, je suis un fan de comics. Alors, je sais pas que j'ai pas du tout aimé. Je pense qu'on nous roule sur le genre. Et t'as tout à fait répondu, Jeff. C'est-à-dire que il raconte l'histoire d'un mec qui est fou, qui devient fou. C'est pour plein de raisons. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire ici l'histoire de Batman et de Joker, si ce n'est coller des fans de ce truc-là pour attirer du monde, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, dans Batman, il y a un certain nombre d'arcs narratifs, et là, j'ai du mal à le recaler avec lequel s'en inspirait. De toute façon, il y a des problèmes d'anachronisme, d'ailleurs, par rapport à l'âge de Bruce Wayne et l'âge du Joker.
Oui, c'est un peu bizarre, ça.
Normalement, le Joker et Bruce Wayne, enfin, et Batman, ce sont un peu les alter-égaux, enfin, pas les opposés, mais voilà, il y a quelque chose qui s'aimante et qui se repousse en même temps dans leur personnage. Là, il est clairement plus vieux, hein. Ils ont du coup plus de 20 ans d'écart, quoi, ce qui n'est pas du tout le cas dans le comics. quoique ce soit pas forcément spécialement précisé. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'était que j'ai plus vu un espèce de film social qui valide, et tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus, hein, qui valide un peu la violence et les actes parce que à cause de la folie. Et d'ailleurs, et aussi un peu quelque chose de très manichéen du style les pauvres, et ben c'est forcément tous les bons, et les riches, c'est forcément tous les méchants. Et d'ailleurs, à tel point que cet archétype du Joker a été maintenant repris dans toutes les manifestations récentes aux États-Unis notamment, avec nous on a les gilets jaunes, mais maintenant là-bas, après les masques de V pour Vendetta avec les Anonymous, tout ça, maintenant ils se font tous la peinture du Joker. Parce que clairement, il est porté comme le symbole de la rébellion, de la pauvreté, des précaires. Et d'ailleurs, l'image du film se termine là-dessus. Hein, Jeff, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est quand il est à moitié, il est porté. Le plan fait qu'il est mis en avant. Quoi. Clairement, c'est le héros du film. Quoi. Et ben moi, ça me dérange un peu que le héros du film, ce soit un mec qui tue autant, qui soit aussi violent. Parce que par rapport justement aux comics où la violence, elle est forcément stylisée, elle est forcément mise en exergue parce que c'est. C'est une violence artistique, hein, clairement. Là, il y a pas du tout ça, quoi. Moi, j'ai autant, je te dis, des Kill Bill, je les regarde 23 fois, j'ai aucun problème. Autant là, les quelques scènes ultra violentes qu'il y a eu, elles étaient pour moi insoutenables parce que beaucoup trop proches de la réalité et beaucoup trop éloignées du comics, en fait. Tu vois, le Joker, il est pas du tout comme ça dans le comics. Il est complètement fou, hein. Il est drôle. Il y a ce côté drôle sans être drôle. On sait bien pourquoi, hein. Mais la folie, ce qu'on voit bien dans le Dark Knight numéro 2 où il veut juste détruire pour tout détruire d'ailleurs, et même une phrase de Michael Caine dans le Batman 2 où il dit il y a certains hommes qui ne sont pas attirés par l'argent mais juste ils veulent juste voir le monde brûler quoi. Et là, il est vraiment j'étais gêné, j'ai l'impression qu'on valide en fait le fait on valide cette violence parce que bah oui, il a plus de médicaments, la société lui donne plus les médicaments, donc il devient fou, donc il tue tout le monde et c'est OK quoi. Et ben ça me dérange un peu.
OK.
Je sais pas, hein, si t'avais vu ça comme ça, hein, mais
pas du tout. C'est un anti-héros. Il y en a déjà eu des films sur les anti-héros.
Oui, mais c'est
voilà.
Oui, mais
aussi,
pour moi, il est
c'est le mal qui triomphe, etc.
Oui, donc, mais j'ai pas de problème avec le mal. J'ai pas de problème avec le mal qui triomphe quand clairement là, c'était parfois à la limite du documentaire. Je sais pas comment te dire. J'avais l'impression de voir.
Ça faisait vrai. Oui, tout à fait.
On n'est pas assez déconnecté. C'est pour ça que c'est pas que je dis. Qu'en fait il nous trompe en disant que c'est le Joker parce que ça aurait pu être une histoire. L'histoire elle marchait très bien avec n'importe quel fou
n'importe quelle
l'histoire de la folie d'un mec qui sombre dans la folie parce que la société répond plus, l'a laissé et voilà. Donc quel intérêt en fait et la scène la plus pourrie qui sert à rien, je suis désolé, c'est ce qu'ils ont. Alors, je suis désolé s'il y a des spoilers, mais je suis obligé de le dire.
Spoiler, là.
Ouais. C'est toute l'histoire où il croit à un moment qu'il est le fils du père de Bruce Wayne et qui va donc devant le manoir de Wayne et qui tombe face à face avec Bruce et qui lui fait croire qu'en gros ça serait son demi-frère quoi. Et tu dis mais qu'est-ce que ça fout là et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. T'as l'impression que c'est le seul élément qu'il a voulu mettre pour rajouter vraiment à l'univers Batman avant de repartir dans son film social quoi, clairement hein. Voilà.
Si je comprends bien, ils ont un peu raccroché au forceps l'histoire du film à celle de Batman et ça aurait pu être un total anonyme qui aurait
exactement
été à la place du Joker, ça aurait pas changé grand chose.
Je trouve que en fait, alors à la différence près que effectivement Joaquin Phoenix est absolument bluffant. Il est excellent, vraiment. Il est bluffant de folie en fait. Hein, il est vraiment excellent. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, c'est un peu déroutant quoi. Je sais pas trop quoi. J'ai pas détesté en fait. Hein, il m'a vraiment posé question quoi. Voilà.
En tout cas, c'est un film qui fait beaucoup parler. Donc ça, c'est qu'il a réussi son truc.
Peut-être un peu trop, ouais. Un peu trop. Et puis ce côté, là, on récupère ça. Je te dis, là, vous regarderez aux États-Unis, mais toutes les contestations, c'est...
Ouais, j'ai pas suivi ça.
Ils se mettent tous en Joker parce que vraiment, c'est ça. Et c'est... Il a raison. Et les riches, c'est tous des méchants, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et bon...
D'accord.
C'est peut-être pas aussi simple. Voilà.
Ok, et eh ben voilà, une bonne émission qui a duré plus d'une heure. Hein, c'est pas mal, hein. En tout cas, si vous voulez, comme d'habitude, si vous voulez voir, écouter les émissions, c'est sur eTeachers.fr ou sur tous les lecteurs de podcasts, sur tous vos appareils, vous trouvez, hein, vous tapez podcast et vous prenez un lecteur de podcast et vous cherchez eTeachers, vous nous trouverez. Sinon, on est sur les réseaux sociaux, Twitter, eTeachers.fr, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est toujours sur iTunes, je ne sais pas s'il y en a encore qui utilisent iTunes.
C'est devenu podcast depuis maintenant, c'est fini.
Non, mais le logiciel existe toujours, iTunes.
Oui, mais bon, ça va.
Voilà. Facebook, etc. Voilà, et puis on peut aussi nous avoir directement. Seb.
Seb, c'est sur Twitter pour changer avec @stuteur, S-T-U-T-E-U-R.
Guillaume.
Toujours pareil, @willowteach, W-I-2-L-O, le tiré du 8, teacher.
Voilà, moi c'est @jeff8342 et si vous voulez nous soutenir, il y a toujours notre petit Tipeee, en tout cas n'hésitez pas, si vous pensez qu'on mérite un petit café par émission, n'hésitez pas en tout cas d'aller sur Tipeee. Voilà les gars,
salut,
au numéro 99 le prochain.
Ciao, ciao.
Ciao.